la matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagée.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ses albums et j'ai pété une pile.
Les sujets étudiants.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
Bon alors, qu'est-ce que je ferais si j'étais maire, moi ? À défaut de me baigner dans la Seine ou de me barrer à vélo après ma victoire, enfin, à vélo. Même pas, à vélo. En Vélib, le gars il s'est offert un bain de foule à Vélib, tranquille quoi. Alors, pas les verts, hein. On n'est pas fous, on roule électrique, c'est l'avenir quand même. La technique du moindre effort aussi, on est en costard quand même, on va pas finir trempé, il y a des interviews à donner après. Mais bon, c'est marrant tout ça, il y a les gardes du corps en Vélib aussi autour, hein. C'est très drôle à voir. D'ailleurs, voir que je suis hilar sur le plateau, je me fends la poire, enfin. Donc bon, juste pour rappeler quelques règles, monsieur Grégoire, déjà primo. On met un casque, hein, si on veut montrer le bon exemple, pas comme si vous étiez maire de Paris. Je dis ça comme ça. Deux yeux, les mains, Emmanuel, c'est sur le guidon, hein. On fait pas coucou à tout le monde sur le trottoir, hein, on regarde devant soi, on reste attentif. Ça c'est dangereux, Manu, hein. Faire attention. Et trois yeux, le vélo, c'est pas au milieu de la route. Il y a des pistes cyclables, je pense, et on est tous d'accord qu'une certaine Hidalgo, dont je ne citerai pas le nom, nous a assez fait chier avec ses grands axes cyclables parisiens. Comment il fait, tonton Albert, avec sa Porsche, là, déjà qu'il pouvait plus rouler à 30, il roule plus qu'à 30 km/h. Il a fallu qu'on lui supprime les voies de circulation. Donc on fait un effort, s'il vous plaît. Maintenant, on a eu des pistes cyclables, donc c'est pas pour rien, et on les utilise. En plus, j'ai suivi le trajet que vous avez emprunté jusqu'à chez vous avec votre compte Strava. Il y avait des pistes tout le long. Donc ça la fout un peu mal. Bon, on rigole, mais bon. On est quand même 50% à vous avoir donné votre chance. Donc même si vous pédalez un peu de travers, vous allez dans la bonne direction, et Paris, sa culture et ses habitants vous en seront sûrement reconnaissants. Au sommaire ce soir, on va parler de la guerre en Iran, et c'est Hugo qui reçoit Denis Herman, directeur du centre de recherche sur le monde iranien et chargé de recherche au CNRS sur l'histoire moderne de l'Iran. Vladimir sera au Zoom, il va accueillir le groupe de musique féminin My Dog The Bear, qui vient tout juste de sortir son premier album Deep Fruit Bitches. Au Flash Info, ce sera Hugo. Pour la chronique actu, on parlera d'intelligence artificielle avec Nancy, et nous finirons sur une note amoureuse avec Ludmila. Vous écoutez toujours la matinale de 19h sur Radio Campus Paris, sur le 99 FM en Ile-de-France, et tout de suite, c'est le grand entretien.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Et nous recevons Denis Herman, bonsoir.
Bonsoir.
Qui sera interviewé par Hugo, et la parole est à vous les garçons.
Oui, bonsoir Denis Herman. Bonsoir. Vous êtes chargé de recherche au CNRS, donc le Centre National de la Recherche Scientifique. Vous êtes spécialiste de l'histoire moderne de l'Iran et directeur du Centre de Recherche sur le monde iranien. Avec vous aujourd'hui, on va essayer de comprendre la guerre en cours en Iran, mais aussi revenir sur l'histoire longue du pays pour mieux saisir les enjeux actuels. Première question, depuis fin février 2026, l'Iran est au cœur d'un conflit majeur impliquant notamment Israël et les États-Unis. Comment est-ce que vous qualifieriez cette guerre aujourd'hui ?
En deux mots, d'abord d'illégal et d'illégitime. C'est vraiment je pense, ce qu'il faut rappeler en premier lieu. Illégal au regard du droit international, illégitime aussi parce qu'on n'a toujours pas d'explication précise sur les motivations de guerre, sans même mentionner du caractère évidemment extrêmement dangereux et de l'escalade à laquelle on assiste.
Est-ce qu'on peut parler d'une guerre classique ou on est face à une guerre qui est un conflit hybride ou asymétrique au final ?
Hybride et asymétrique définitivement, bien sûr. Et c'est probablement depuis la Seconde Guerre mondiale le conflit dans lequel on voit une extension géographique aussi importante. Alors peut-être pas en nombre de morts civiles, heureusement.
Mais de pays impliqués.
Mais de pays impliqués et de la taille en fait de ces pays-là. Hein. L'Iran, c'est trois fois la taille du territoire français, c'est 92 millions d'habitants. L'Irak, qui est impliqué d'une façon ou d'une autre, c'est quasiment 50 millions d'habitants aujourd'hui. Et on voit aussi des répercussions qui commencent à être évoqué par exemple par des africanistes sur le Soudan, c'est-à-dire qu'on a au Soudan aussi une guerre civile dont on voit déjà des implications aujourd'hui avec une évolution des rapports de force avec le pouvoir, disons, légal ou officiel plutôt soutenu par l'Iran et à certains de 2010 soutenu par les Émirats Arabes Unis qui n'ont plus la même capacité depuis les frappes de l'Iran à intervenir sur le terrain soudanais. Donc on voit bien à la fois l'extension du conflit et les capacités même de ce conflit à s'étendre encore davantage. Une des grandes questions des spécialistes des pays arabes de la région et des alliés de l'Iran de la région est de savoir aussi si à un moment ou à un autre, les Houthis au Yémen prendront la décision également de s'impliquer dans ce conflit, ce qui n'est pas le cas jusqu'à
présent. Les Houthis au Yémen, pour rappeler, c'est, on a qualifié ça de milice, mais c'est le mouvement en place qui dirige le pays, c'est ça ?
C'est ça, c'est le gouvernement de ce qui correspondait historiquement au Yémen du Nord, avant évidemment la réunification du pays, et qui contrôle notamment la capitale historique du pays, c'est-à-dire Sanaa, un pays quand même de quasiment 25 ou 30 millions d'habitants, donc c'est pas un petit pays.
Et tous ces pays qui sont touchés autour de ce conflit avec l'Iran, c'est dû au pétrole notamment ?
Alors, l'Iran, vous avez utilisé le terme clé d'asymétrie, l'Iran évidemment utilise autant que faire se peut la carte pétrolière pour résister dans cette guerre-là et en tout cas utiliser un levier d'action face donc à l'attaque américaine et israélienne, notamment en bloquant le détroit d'Hormuz. C'est l'une des grandes questions qui est en jeu aujourd'hui.
Voilà. À qui il appartient ce détroit ?
Alors, j'aurais beaucoup de mal à vous dire précisément les lignes de partage en termes d'eau nationale et d'eau internationale. Il faut retenir qu'il est très étroit. C'est 30 kilomètres, je pense, au fur et à mesure de ma part. J'ai eu la chance une fois d'être sur l'île de Rej, donc précisément face à ce détroit, on voyait les tankers passer. Et le pays qui est en face, donc Oman, n'a absolument pas la capacité militaire d'un pays comme l'Iran. Donc l'Iran a de facto un pouvoir, une autorité sur ce détroit qui est plus forte, par exemple, que Oman, le seul quasiment d'ailleurs pays de cette rive-là du Golfe Persique avec lesquels l'Iran entretient des relations importantes, relativement proches. Ça a été le premier pays historiquement à reconnaître la révolution islamique en 1979, ce qui explique aussi cela. Et c'est par ailleurs pas un pays producteur de pétrole en comparaison aux autres pays du Golfe comme l'Irak, le Koweït, l'Iran, Bahreïn, Qatar, Arabie Saoudite et Émirats Arabes Unis. Donc qui est moins impliqué dans le trafic pétrolier. Et donc moins touché par la fermeture en soi économiquement du détroit.
Évidemment, avant de continuer de parler de la guerre actuelle, est-ce que vous pourriez nous rappeler les grandes étapes de l'histoire de l'Iran ? Je sais que c'était un très grand pays avec une très longue histoire, mais qu'est-ce qui a fait qu'on en est là aujourd'hui ?
Alors, oui, c'est toujours difficile hein, de répondre à une telle question, mais si on considère que la réponse de l'Iran s'inscrit dans une forme de défense de souveraineté nationale, je pense que si l'une des dates qu'on peut prendre en considération, c'est les deux guerres au début du 19e siècle perdues par l'Iran contre la Russie dans le Sud-Caucase, 1814-1813 pour la première, 1826-1828 pour la seconde. Donc, je considère que si on doit donner voilà, un moment, ou en tout cas faire démarrer finalement cette histoire compliquée, asymétrique de l'Iran avec son environnement régional, la Russie au nord ou puissance impérialiste, l'Angleterre et la Russie au cours du 19e siècle et à la période donc contemporaine, j'entends davantage actuelle, les États-Unis et Israël, cette date est intéressante. Et puisqu'en fait, toute la philosophie politique produite en Iran jusqu'à l'avènement, disons, de la révolution constitutionnelle de 1906-1911 et l'entrée pleine et entière de l'Iran dans une forme de modernité politique telle qu'on le connaît au cours du XXe siècle, avec notamment l'avènement d'un parlement représentatif, d'un pouvoir constitutionnel, etc. Cette pensée traditionnelle, théologico-politique ou philosophico-politique, qui a été développée jusqu'au tout début du XXe siècle, insiste effectivement sur deux attributs majeurs du souverain ou du pouvoir. Le premier d'entre eux est la capacité à défendre le territoire. C'est quelque chose d'extrêmement central dans toute la pensée politique
en Iran. Donc l'armée.
Oui, disons la capacité du pouvoir à le défendre, avec ou sans armée. L'Iran a structurellement, sur le temps très long, un pouvoir militaire extrêmement limité. Et n'a jamais été en mesure militairement de se défendre, je dirais, avec succès face aux différentes entreprises. Mais a toujours utilisé, comme aujourd'hui d'ailleurs, différents leviers pour garantir et assurer sa souveraineté nationale. Évidemment, l'avènement de la révolution islamique et de la guerre Iran-Irak a entraîné un certain tournant dans le fait que l'Iran s'est davantage militarisé et a tenté de sanctuariser son régime, mais ça reste un pays sans aviation militaire, avec sans infanterie majeure.
On peut simplifier en disant que le pouvoir iranien est très malin si on compare face à d'autres pays. C'est...
oui, pourquoi pas. Il faut un autre élément géopolitique ou plutôt géographique. Aujourd'hui, l'Iran est le pays au monde avec le plus grand nombre de frontières avec d'autres pays.
Ils en ont combien ?
15 ou 16, sauf erreur de ma part, si vous intégrez les frontières maritimes, qui est au centre du conflit, évidemment, aujourd'hui, la question des frontières maritimes. Donc, c'est-à-dire que vous avez au nord-ouest l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Turquie. à l'ouest l'Irak, puis tous les pays du Golfe qu'on vient de citer en termes de frontières maritimes, le Pakistan, l'Afghanistan, le Turkménistan. Et sauf erreur de ma part, mais je peux me tromper, il doit y avoir une frontière aussi maritime avec la Russie, avec la mer Caspienne. Donc c'est, vous voyez un petit peu le nombre d'espaces aussi avec lesquels il est en interaction, le monde caucasien, le monde centra-asiatique, indien, arabe, celui du Golfe, et puis le monde turc, et à travers la Turquie, le monde européen, notamment à la période ottomane, puisqu'Istanbul a toujours joué un rôle pour les intellectuels et les hommes politiques iraniens de relais, je dirais, à la construction de cette pensée moderniste dont on pourrait parler si on avait le temps. Oui.
Alors, quels sont les événements précis qui ont déclenché l'escalade récente ?
Alors, j'ai parlé tout à l'heure de guerre illégale et illégitime. Donc c'est très difficile de donner une réponse parfaitement claire à cette question-là. Ce qu'on constate, c'est que l'Iran et les États-Unis en sont à leur troisième grande période de négociation autour de la question du nucléaire. Donc, où Trump est associé aux trois moments. C'est-à-dire que le premier moment, 2015, sous l'administration Obama, première fois que l'Iran parvient à un accord.
Il y en avait une en Suisse, non, qui a eu lieu.
Avec beaucoup de ces réunions se faisaient à Genève ou bien à Vienne, qui est le siège de l'AIEA, donc Agence internationale de l'énergie atomique. Et l'Iran, pour la première fois, était parvenu à un accord en 2015, donc avec un quartet composé des États-Unis et d'un certain nombre de pays européens.
Cet accord, il impliquait quoi ?
Il impliquait un contrôle plus strict du programme nucléaire iranien contre la levée d'un certain nombre de sanctions. Et là, j'en reviens à un autre mot-clé pour comprendre la situation, les sanctions. C'est un pays qui vit sous sanctions depuis 1979 et les sanctions ont des effets absolument délétères et extrêmement importants sur la société iranienne et la situation, et notamment économique, en Iran. Donc, premier accord déchiré en 2018, lors de la premier mandat de Donald Trump, puis négociation au cours du mois de juin dernier.
Déchiré par qui ?
Par Trump.
D'accord, lui-même.
Qui a décidé de ne pas appliquer l'accord obtenu par l'administration Obama.
D'accord.
Donc pour les Iraniens, trahison. Il y a un accord long, l'objet de nombreuses négociations, trahison. Deuxième accord au cours de, ou plutôt négociation, ou nouvelle phase de négociation à nouveau avec l'administration Trump et pas l'administration Biden. Donc second mandat de Trump au cours de l'été dernier. Et là, guerre des, et au cours de la négociation, bombardement israélien pour le coup. Et la guerre s'arrête le 12e jour avec un bombardement massif de l'armée américaine sur le site nucléaire de Fordo, c'est ça. Et là, troisième round de négociation. Et là, même chose, attaque le 28 février au cours des négociations, alors que beaucoup d'observateurs, à la fois iraniens, il y a peu d'informations qui circulent, mais les Iraniens ont quand même communiqué sur le sujet, évoqué des avancées absolument majeures avec des concessions des Iraniens, alors au-delà des concessions qu'ils avaient accordées à l'administration Obama en 2015, et qui avaient largement, pas massivement et totalement, mais largement relancé l'économie iranienne entre 2015 et 2018, avec des taux de croissance qui dépassaient quasiment les 10%, retour des investissements internationaux.
Alors, je vous coupe juste pendant une courte pause musicale. On va revenir sur le rôle de Trump dans cette guerre et dans les négociations en Iran, juste après une pause musicale. Et on va écouter justement un titre d'une chanteuse iranienne, donc le titre qui s'appelle Konu Javanan, de la chanteuse iranienne Parasto Ahmadi.
As khun javan ane vatan lo vatan lo vatan lo Yeah.
Askouni Javanan de la chanteuse iranienne Parasto Ahamadi. Il est 19h19 et vous écoutez la matinale de Radio Campus Paris sur le 93.9 FM. Et tout de suite, c'est la deuxième partie de l'entretien.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Alors, nous sommes toujours avec Hugo et Denis Herrmann. Et justement, vous étiez en train de parler du rôle de Trump dans les négociations en Iran.
Exactement, nous sommes toujours avec Denis Herrmann, chargé de recherche au CNRS, et nous parlons du rôle de Trump. On parlait de la troisième round de négociations et qui avait lieu, et en même temps, il y a eu cette fameuse frappe israélo-américaine le 28 février. Alors pourquoi cette frappe en plein milieu des négociations, Denis Herrmann ?
Je voudrais demander aux acteurs, mais bon, de toute évidence, on voit une volonté commune de ces deux pays, c'est-à-dire États-Unis et Israël, d'affaiblir en fait ce régime et ou cette société. Je renvoie sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur cette quête d'autosuffisance économique, cette quête de souveraineté politique qui, pour un pays aussi important et puissant que l'Iran, eu égard à sa place qu'on a mentionné, son rôle dans le marché évidemment des énergies, est difficilement tolérable en fait, je pense, pour ces deux pays, au-delà de la question de la nature évidemment du régime. Et pour ce qui est d'Israël, que c'est une volonté très ancienne hein, d'Israël de pousser en fait les États-Unis ou l'administration américaine à un tel conflit. Et de toute évidence, le 7 octobre a été un catalyseur et une opportunité en fait, post 7 octobre, pour mettre en avant cet agenda-là et
mettre une pression sur les États-Unis qui sont des alliés d'Israël.
Qui sont des alliés d'Israël, qui est le premier fournisseur notamment en munitions. L'Israël n'aurait pas pu mener cette guerre d'écrasement de Gaza sans un soutien en munitions en particulier. Américain. Il n'aurait même pas tenu, selon certains experts, plus de 10 ou 15 jours avec le rythme de bombardement qui était le leur à partir presque du 8 ou du 9 octobre 2023.
On sent aujourd'hui que la diplomatie internationale est assez affaiblie, on pourrait même dire en échec. Est-ce que pour vous, c'est un échec de ce côté-là ?
Le 7 octobre, à nouveau, sonne le glas du respect de ce droit international. Et au-delà des États-Unis et d'Israël, donc, qu'on vient de mentionner, il y a évidemment la responsabilité même des pays européens et notamment de la France qui ont, d'une certaine façon, tout en condamnant les frappes ou certaines frappes, ont toujours refusé de qualifier donc ce conflit pour son caractère fondamentalement illégal et prendre des mesures à l'égard d'Israël, notamment en termes d'accord, vous savez, entre l'Union européenne et Israël, qui est essentiel en fait à l'économie israélienne.
Le guide iranien Ali Khamenei a été donc tué le 28 février. Qui est au pouvoir aujourd'hui en Iran ?
Alors, question très, vraiment extrêmement difficile à répondre. C'est une question qui revenait déjà avant le conflit, c'est-à-dire où est la réalité du pouvoir ?
On a très peu d'informations.
Entre le guide ou entre les gardiens de la révolution, dont on sait que le rapport est structurel en fait, extrêmement puissant. Il y a beaucoup de doutes aujourd'hui, ou de spéculations plutôt, sur l'état de santé du successeur, Mojtaba Khamenei.
Qui est son fils.
Et également beaucoup de spéculations sur les raisons de ce choix. C'est-à-dire le choix de son fils.
Qui l'a choisi ? Ce sont les...
Alors, c'est une assemblée d'experts, donc de 88 religieux, qui n'est pas un synode des plus grands...
Qu'est-ce qu'un synode ?
Assemblée de religieux. D'accord. Qui n'est pas le synode par excellence des plus grandes autorités cléricales, puisque les plus grandes autorités cléricales en Iran, je pense à des figures comme Vahid Khorasani, par exemple, ou Makarem Shirazi, ne participent pas, ne sont pas membres de cette assemblée d'experts. Donc c'est eux qui ont évidemment choisi de manière officielle, légale, le successeur. Mais on peut se demander si c'est Mojtaba Khamenei qui aurait été choisi dans un autre contexte. J'entends une mort naturelle du guide de iranien, c'est-à-dire Ali Khamenei avant le 28. Mais le contexte de la guerre et le fait que Mojtaba Khamenei est un homme extrêmement discret, fait le lien ces dernières années entre son père, ou faisait le lien entre son père Ali Khamenei et les gardiens qui sont les seuls aujourd'hui à même de mener cette guerre défensive. ce choix paraît assez logique et s'impose quasiment dans un contexte de guerre. Mais il n'apparaît pas nécessairement le choix le plus naturel politiquement parlant, si on pense le régime sur le temps long, disons sur les quasi 50 dernières années, sachant par ailleurs que le fondateur de la révolution islamique, dans Ruhollah Khomeini, ne souhaitait pas, et avait explicité le fait qu'il ne souhaitait pas qu'il y ait une forme de succession d'ordre dynastique après lui. Donc évidemment, Khamenei n'est pas un membre de la famille de Khomeini, mais là, c'est le choix du fils qui a été fait. Ça permet peut-être aussi, dans un contexte de guerre, à protéger la réalité du pouvoir, qui n'est peut-être pas en ses mains, puisque là, le pays est en guerre.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler quel rôle ont les gardiens dans le pays et quel rôle a ce guide, finalement ? Quelles sont la différence entre ces deux instances ?
Alors, le guide, selon la Constitution, ou selon les règles même du fonctionnement de la République islamique, a un statut de guide spirituel et politique. Il est supposé être la plus haute autorité théologico-juridique du moment présent, même si on sait qu'aujourd'hui, les plus hautes autorités théologiques iraniennes refusent en fait de devenir ce guide dans le contexte présent. Il est le commandant des armées, donc directement en lien avec les Pasdaran, donc les Pasdaran, donc c'est-à-dire les gardiens de la révolution, qui est un corps d'armée qui a été créé dès le début de la révolution. La révolution ou les révolutionnaires ayant fait le constat que c'est précisément l'armée régulière qui a lâché le pouvoir du Shah, c'est-à-dire le pouvoir monarchique. Et donc, dès le début, ils ont tenté de se prémunir d'un tel renversement, d'un retournement potentiel de l'armée régulière en créant une seconde armée. Donc, il y a deux armées, l'armée nationale, ce qu'on appelle le Artesh, dans lequel tout à chacun, c'est-à-dire tout homme iranien, réalise par exemple son service militaire, et puis l'armée des Pasdaran, dans lequel tout un chacun ne réalise pas son service militaire.
Et là, dans ce conflit, aujourd'hui, c'est ces deux armées-là qui sont engagées ?
Elles sont évidemment tous les deux engagées, mais il n'y a pas de combat au sol, il n'y a pas d'engagement d'infanterie, il n'y a pas d'engagement de chars. On est face à des bombardements auxquels répondent d'autres lancements de missiles ou de drones. Donc il s'agit surtout d'organiser l'effort de guerre, d'organiser la riposte, essentiellement balistique et drone, d'assurer aussi la production, je présuppose, de drones au cours de la guerre, parce qu'il s'agit de ne pas manquer de munitions. Et ça, évidemment, seules les autorités des Pasdaran peuvent et doivent, dans le contexte de la République islamique, assumer ce rôle. En dessous de la République, de ce statut de guide, vous avez, et c'est la grande particularité du régime iranien, toute une série d'institutions qui jouent un rôle d'arbitrage. Et c'est vraiment quelque chose dont on ne connaît pas d'équivalent dans d'autres régimes politiques à ma connaissance, compte tenu du nombre d'institutions qui jouent ce rôle-là. Donc l'Assemblée des experts, qui élit le guide, mais qui peut aussi le destituer, constitutionnellement parlant, composé donc à 88 personnes. Le Conseil des gardiens, qui valide le caractère religieux ou légalement religieux de toute disposition. Et une autre instance, alors peut-être encore plus difficile à comprendre le fonctionnement exact, qu'on appelle donc le Conseil de discernement, et qui joue un rôle d'arbitrage entre le Parlement, donc le pouvoir législatif. Et là, pour le coup, c'est la dimension républicaine du régime, puisqu'on a des députés élus pour chaque province ou région d'Iran, comme on pourrait avoir ici pour chaque département, et ces pouvoirs donc non élus. Et puis, vous avez évidemment la présidence, également élue par suffrage universel. Et donc, la présidence et le pouvoir législatif du Parlement sont véritablement ce qu'on qualifie souvent de face républicaine de ce régime, qui apparaît donc comme un régime hybride. Je crois que vous avez utilisé tout à l'heure le terme, et c'est un terme qui est tout à fait adéquat pour caractériser ce qu'est politiquement la République islamique d'Iran.
À partir de quel moment on parlerait de guerre mondiale ? Aujourd'hui.
Là, je pense qu'on l'est.
On peut dire le mot.
C'est toujours difficile, hein, parce que je pense qu'on a des. Lorsqu'on parle de guerre mondiale, on pense à la première et à la seconde guerre mondiale. La seconde guerre mondiale, c'est 60 millions de morts. Donc évidemment, on n'est pas dans cette échelle-là du tout. Mais néanmoins, si on prend la quantité des acteurs impliqués et les conséquences potentielles, je pense notamment au niveau économique et énergétique, ce qui est évidemment fondamentalement lié, je pense qu'on peut le dire. Et puis ne pas oublier, il y a un pays qu'on n'a pas mentionné depuis tout à l'heure, c'est le Liban. Le Liban, dans la continuité immédiate en fait de cette attaque post 28 février, donc il y a un petit peu plus de 23
qui est actuellement bombardé,
qui est plus que bombardé, qui est depuis
de
quelques
plus
jours
à Gaza
occupé. Il y a une avancée de l'armée israélienne dans le sud du Liban, il y a une destruction quasi systématique des villages et des, pour le coup, un objectif qui est clairement annoncé, c'est-à-dire de créer une zone tampon, une zone dans laquelle il n'y aurait plus quasiment de vie libanaise, je veux dire autochtone, si vous préférez, de vie agricole. Et on a vu, je crois que c'était hier ou avant-hier, la destruction du principal pont qui relie le sud de Liban, donc l'extrême sud, au nord, à travers cette rivière. Mais c'est un fleuve qui se jette dans la mer Méditerranée, qui est le Litani. Et c'est une vieille histoire, puisque le mouvement sioniste, même avant la création de l'État d'Israël en 1948, a toujours aspiré et toujours revendiqué la possibilité de créer un État, donc un foyer juif ou un État d'Israël, qui s'étendrait sur ce sud de Liban, pour différentes raisons, notamment le contrôle de l'eau et le fait que c'est de façon assez évidente la continuité territoriale la plus logique pour une politique d'expansion, contrairement à Sinaï, au Sinaï qui est un désert par exemple, ou la Jordanie qui est largement aussi un désert.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Denis Herman. Donc, je le rappelle, vous êtes directeur du Centre de recherche sur le monde iranien et chargé de recherche au CNRS sur l'histoire moderne de l'Iran. Malheureusement, c'est très court, une demi-heure. On aurait pu faire beaucoup plus longtemps sur ce sujet-là. J'en suis d'accord. Hugo, merci beaucoup pour tes questions. Vous écoutez toujours la matinale de Radio Campus Paris. C'est l'heure du Flash Info. Il est 19h30 et c'est à Hugo.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
Merci Robin. C'est le deuxième Hugo de cette matinale qui vous parle. Donc aujourd'hui, l'actualité, c'est bien sûr les municipales, avec à Paris notamment une victoire éclatante d'Emmanuel Grégoire, avec plus de 50% des voix face à Rachida Dati, qui plafonne à 40%, avec 10% des voix revenant à Sofia Chikirou. À Lyon, cette fois, c'est Grégory Doucet qui réussit sa remontada face à Jean-Michel Aulas et qui donc réussit à conserver la mairie de la ville. Mais les écologistes perdent cependant la métropole de Lyon, où aucune entente n'avait pu être trouvée avec la France Insoumise. À Marseille, c'est Benoît Payan qui est réélu, cette fois encore avec plus de 50% des voix. Mais à Toulouse, François Piquemal est malheureusement dépassé par le maire sortant. Il réalise cependant le meilleur score en nombre de voix pour une liste de gauche au second tour à Toulouse, mais cela n'aura pas suffi à contrer la mobilisation de la droite toulousaine. Que retenir finalement de ces municipales ? Eh bien, c'est toujours un peu compliqué pour ce qui est d'analyser les municipales puisqu'il y a beaucoup de dynamiques locales, mais on peut déjà remarquer la percée de la France Insoumise, mais aussi une progression de l'extrême droite avec le Rassemblement National qui parvient à gagner des mairies, mais qui en perd quand même dès que les villes sont un peu plus nombreuses en termes de nombre de personnes. Je pense notamment à Toulon où Laure Lavalette échoue à gagner la mairie. Pour ce qui est du reste des partis, LR parvient à garder la plupart de ses mairies. Quant au PS, il se retrouve obligé de s'allier avec la France Insoumise, qui est indicateur d'une recomposition politique à l'heure en France. Politique toujours, mais cette fois-ci sur une note un petit peu plus triste, puisque Lionel Jospin, ancien premier ministre de la gauche plurielle entre 1997 et 2002, est mort ce dimanche. Bien sûr, les hommages ont fleuri à gauche, notamment Jean-Luc Mélenchon, qui était son ministre de l'éducation professionnelle, déclarait qu'il restera l'homme des 35 heures et qu'il est un modèle d'exigence et de travail. Justice maintenant, Mediapart met en lumière les accusations de viol et d'agression sexuelle dont fait l'objet Patrick Bruel. Le journal dénonce notamment le silence médiatique dont font l'objet ces accusations, sachant que les premières accusations visant Patrick Bruel datent de 1992. Pour finir, une note un petit peu plus légère. On va parler culture avec la sortie de l'épisode 8 de The Amazing Digital Circus, qui est désormais disponible. Cette petite série, animée par un studio australien indépendant nommé Glitch, s'impose aujourd'hui comme un incontournable de la culture web, chaque épisode amenant son lot de théories pour la suite de l'aventure et retournant systématiquement les réseaux sociaux. On a d'ailleurs la date de sortie du 9e et dernier épisode de la série, qui sortira le 19 juin 2026. Soyez au rendez-vous.
Merci Hugo pour ce Flash Info un peu à rallonge, et surtout sur ce retour des municipales. On enchaîne avec une petite pause musicale en écoutant The Litter Gallery de Palm of the Nation.
sentimented ballad that pierces the very fabric of the sky. There was a time, there was a time, at least we had the promise of an open gate. The blinding brilliance of a dying day.
C'était The Little Gallery de Palm of the Nation. Il est 19h37, vous êtes toujours sur Radio Campus Paris et vous écoutez la matinale de 19h.
La matinale de 19h, Radio Campus Paris.
Et c'est l'heure de parler d'intelligence artificielle avec la chronique Actu de Nancy, qui est en duplex en Belgique, et la chronique qui sera du coup présentée par Jeanne, notre chère coordinatrice.
Exactement. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une nouvelle chronique envoyée tout droit de la Belgique, écrite par Nancy, et le sujet se concentre sur un fait de société de notre époque, évidemment l'intelligence artificielle. Vous connaissez sûrement l'actrice Zendaya, une des actrices phares de la nouvelle génération hollywoodienne, et à ses côtés, Tom Holland, lui aussi très connu, surtout pour sa reprise du rôle de Spider-Man après Tobey Maguire ou encore Andrew Garfield. Tous deux se sont rencontrés en 2016 sur le plateau de Spider-Man et Zendaya interprétait MJ. Et quelques années après, ils sont devenus The Couple of Hollywood, au point de se marier cette année, enfin apparemment. Début mars, Lo Roach, le styliste iconique de l'actrice, lâche en pleine interview « Le mariage a déjà eu lieu, vous l'avez juste raté ». Et suite à cette annonce, vous avez dû sûrement voir sur les réseaux sociaux une flambée d'images de leur mariage. Zendaya, sublime dans sa robe de mariée, au bord du lac de Côme, et Tom Holland, plus élégant que jamais, mais 11 millions de likes plus tard, c'est la douche froide, tout cela est fake. Le couple n'a en réalité encore jamais dévoilé aucune photo officielle de leur mariage. Cependant, il n'en fallait pas plus pour qu'une toute petite phrase du styliste personnel de Zendaya soit le résultat d'images IA ultra réalistes qui explosent sur Internet. C'est là le vrai basculement sociologique, c'est que l'IA ne se contente plus de copier le réel, elle anticipe nos désirs, comme voir Zendaya dans sa robe de mariée. Ce phénomène est loin d'être marginal. Selon le rapport 2025 du Reuters Institute, 54% d'utilisateurs sur Internet sont exposés chaque semaine à du contenu généré par l'IA sans savoir l'identifier. Et ce n'est pas un cas isolé. Regardez le supposé couple récent de Kylian Mbappé et l'actrice de la série Elite Esther Exposito. Aucune confirmation officielle, que des rumeurs, alors que l'IA comble le vide. On voit circuler des photos d'eux en vacances privées, ou alors lors de dîners romantiques, mais ces clichés n'ont jamais existé. Tout cela révèle un fait de société. Aujourd'hui, on ne se contente pas d'attendre l'information, on la fabrique pour satisfaire nos envies, notre curiosité et notre imagination. Mais attention, à force de vouloir croire aux contes de fées, on oublie de regarder les détails et c'est là que ça devient drôle. Il est possible de démasquer des photos d'IA, par exemple, regardez la taille. Sur cet un cliché, Tom et Zendaya font exactement la même taille alors qu'elles portaient des talons. Cependant, l'acteur est en réalité plus petit que l'actrice. Autre indice, les bijoux. D'une photo à une autre, dans la même série, ils changent de forme ou de longueur. L'IA se trompe souvent sur les petits détails comme cela. Enfin, observez l'arrière-plan, que ce soit un jardin à la française ou une villa italienne, si les colonnes s'enfoncent dans l'herbe ou si les fenêtres flottent un peu, et ça, c'est signé IA. La nature et les bâtiments sont souvent trop lisses et illogiques. Le mot de la fin revient à Zendaya elle-même. Invitée chez Jimmy Kimmel le 17 mars dernier, elle a raconté, hilar, que ses propres amis l'ont appelée pour se plaindre de ne pas avoir été invitée, ou encore que des gens l'ont stoppée dans la rue pour lui dire que les photos de mariage étaient magnifiques. Sa réponse est devenue culte. Babe, they're IA, they're not real. Et finalement, l'IA ne trompe pas seulement nos yeux, mais joue avec nos envies.
Merci beaucoup, Jeanne, pour cette chronique actu, pour cette chronique libre, pardon. Et on embrasse Nancy en Belgique. Restez avec nous sur Radio Campus. Il va y avoir de la musique et de la musique en live pour le Zoom avec Vladimir.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Et donc pour le Zoom, on a le plaisir d'accueillir le groupe My Dog The Bear. Salut tout le monde.
Bonsoir.
Salut Vladimir.
Salut.
Donc, la parole est à vous.
Bah merci beaucoup, bonsoir tout le monde et surtout bonsoir Morgane et Julie. Donc vous êtes deux musiciennes et vous nous venez tout droit du groupe My Dog's a Bear. Et on va parler de votre dernier album qui est sorti début janvier, qui s'intitule Deep Fried Bitches. Vous allez jouer aussi un peu avec nous en live. Je vais commencer un peu rapidement. Donc ici c'est une radio un peu généraliste, donc on n'est pas spécialiste vraiment des styles un peu obscurs de musique, mais vous vous définissez plutôt comme un groupe de post-punk. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu rapidement ce que c'est que le post-punk et dans quoi vous inscrivez?
Alors, le post-punk, c'est un genre musical de la fin des années 70 qui, en tout cas, enfin, je vais en délivrer une définition personnelle,
hein,
qui s'est inscrit en prenant le relais du punk avec une même attitude d'accessibilité et de comment ne pas forcément avoir la nécessité d'avoir une instruction musicale académique ou de respecter certains codes. En revanche, sonorement, le post-punk s'autorise des
expérimentations,
des expérimentations ou en tout cas, enfin voilà, le fait d'aller sur d'autres terrains. Et enfin moi j'aime beaucoup le post-punk anglais londonien de la fin des années 70, qui est un peu le moment où en fait c'est devenu à la mode à Londres dans la scène punk d'écouter de la dub. Et en fait ces grosses lignes de basse hypnotiques, ça a été à l'origine du son de quelques groupes dont Public Image Limited, qui est un de mes groupes
préférés.
Et c'est
ce qu'on entend pas mal dans votre dernier album où la basse est très présente, et donc du coup j'ai eu le plaisir de l'écouter et vraiment ça m'a beaucoup plu. Pourquoi My Dog's a Bear, mon chien est un ours, c'est le nom de votre groupe?
Bah ça, c'est un clin d'œil, en fait, à l'une des références qui inspire le groupe, Sonic Youth, qui, dans l'album Bad Moon Rising, dans le titre I'm Insane, hop, on a fait une petite coupe et ça fait partie des paroles.
C'est une phrase qui est répétée en boucle, une litanie qui est répétée en boucle à la fin de la chanson. Inside my head, my dog's a bear, and she was significant. I'm insane. Et voilà.
Au début, moi, j'ai proposé qu'on... dans vos paroles aussi.
Bah, à la fin de l'album, on cite ce truc-là. Mais ouais, moi, j'ai proposé ce nom de groupe. Après, elles m'ont dit, ouais, je sais pas. Après, j'ai proposé un nom bien pire. Et après, elles ont dit, bon, d'accord pour My Dog's a Bear.
Ouais, puis on aime bien les animaux.
C'est comme ça que ça se passe habituellement. Et je crois savoir que vous aimez beaucoup les animaux. On va maintenant passer un peu à la thématique de cet album, donc, qui s'intitule Deep Fried Bitches. Donc, c'est un album qui se décrit comme ayant un peu un continuum thématique entre la mise en miroir des violences du monde industriel et les violences domestiques. Je cite du coup la description un peu de l'album, ce sentiment d'impuissance, l'angoisse existentielle et l'échappement au réel. C'est un album qui parfois est très direct, un album qui parfois est très éthéré, avec vraiment des expérimentations sonores que vous faites, avec des moments qui sont très chantés, très harmonisés, avec des moments qui sont beaucoup plus scandés, comme ce qu'on a l'habitude d'entendre dans le post-punk. Pourquoi Deep Fried et pourquoi Bitches?
Bah déjà Deep Fried, je pense que il y a pas besoin de justifier pour dire que le monde dans lequel on vit et l'actualité est au-delà d'anxiogène, je veux dire, à ce stade-là, on est plus que cuite, on est frite, quoi. Et pourquoi Bitches? Bah, parce qu'au début, on avait proposé juste Deep Fried, et puis après, il y a quelqu'un qui a dit, ouais, on devrait rajouter Bitches, ça ferait bad bitch, et ouais, ça ferait un clin d'œil avec le nom du groupe.
On serait approprié. Bitch voulant dire chienne. Des choses pas super féministes, et là, on.
Ouais. D'où c'est pas féministe.
Non, mais justement, c'est aussi une insulte.
Tu veux dire que c'est un retournement du stigma ?
Voilà.
Et du coup, qu'est-ce que vous avez essayé d'exprimer à travers les différents morceaux et à travers cet album-là ? Est-ce qu'on peut voir un peu une continuité thématique ?
Bah, en fait, il y a plusieurs oppressions dont tu parlais tout à l'heure. L'album s'ouvre avec un morceau qui s'appelle Drip, qu'on a composé dans le Cotentin il y a quelques années, où c'était un été avec une énorme sécheresse. Et à ce moment-là, on était assez angoissés de ce qui se passait. Ensuite, il y a un autre morceau, Chain Hoist, c'est le début de la face B du disque, où là, on dénonce plus... la souffrance au travail dans notre monde capitaliste.
Et la souffrance psychologique, mais aussi l'usure physique.
Tout ça en parlant d'un palan à chaîne. cette espèce de...
Enfin, c'est un palan à chaîne qui parle à la première personne.
Ouais,
c'est un morceau que vous aviez déjà sur votre deuxième EP, si je ne me trompe pas, qui s'intitulait Chain Hoist, et que vous avez un peu retravaillé, justement. Et je voulais venir un peu là-dessus, sur le retravail de vos morceaux. J'ai remarqué dans l'album que l'album commence par deux morceaux qui sont quand même assez typiques du post-punk, c'est-à-dire qu'on va partir sur des choses assez scandées, mais assez atmosphériques, mais quand même, ça balance bien. Et ensuite, vous vous autorisez dans le reste de l'album à partir dans des choses qui sont beaucoup plus expérimentales, où vous vous autorisez plus de moments presque parfois bruitistes, un peu d'ambiante, avec des moments où la basse est très présente, mais les voix aussi se superposent. Est-ce que ça a été une volonté artistique de votre part de réussir à faire ça et de réussir à faire quelque chose d'un peu plus produit de ce qu'on a pu entendre par exemple sur les premiers EP ? Est-ce que ça a été un défi ?
D'abord, stylistiquement, c'est vrai qu'on se rapproche, on se raccroche au terme post-punk, mais je pense qu'il y a des empreintes de plusieurs styles. Et en fait, le côté, à la limite, le côté plus expérimental, c'était plus ce qu'on voulait faire à la base. Et puis après, il y a des moments où les vieux démons reviennent et où en fait ça redevient plus rock ou plus punk, mais
et psyché aussi.
Mais voilà, je pense qu'à la base, faire un truc un peu bruitiste, un peu bizarre, un peu psyché, c'était un peu ce qu'on voulait faire avec le groupe. Après, en termes de production, c'est juste qu'on a eu la chance de pouvoir prendre le temps et travailler ça avec un ingénieur du son qui est très doué.
Sam Jamin.
Ouais. Benjamin, donc du coup c'est lui qui a mixé l'album et ensuite vous avez fait enregistré et mixé,
ouais.
Et vous avez ensuite fait un mastering, c'est ça, donc c'est vraiment tout un travail. Ça vous a pris combien de temps pour le faire?
On a enregistré en mai 2024, l'album est sorti en janvier 2026.
Ouais. On a éprouvé le concept de patience.
Oui, j'imagine. Et on ressent vraiment, donc tu parlais un peu de ça, cette espèce d'influence. On peut même limite entendre parfois dans les guitares une ambiance presque un peu western dans les moments où la guitare un peu sonne. Et ça, du coup, c'est vraiment, vous avez toujours voulu être un peu expérimental et parfois le côté plus punk vous reprend un peu dans les morceaux. C'est un peu ça que tu essayes de développer, Morgane ?
Oui, je pense que on peut dire ça, ouais. Après, ça c'est l'effet du son de ma reverb, ça.
Après, quand tu dis western, moi ça me fait penser au cinéma, et c'est vrai que dans notre musique, on aime bien cette idée de construire un paysage sonore, prendre le temps, créer une ambiance, quelque chose d'un peu atmosphérique. Donc si ça marche, on est contente.
D'ailleurs, notre musique a été portée à l'image dans un court métrage autobiographique d'une réalisatrice italienne qui s'appelle Silvia Staderoli. Et c'est vrai que ça marche très très bien, quoi. Ça a été hyper émouvant de voir notre musique plaquée sur des images et de se rendre compte à quel point ça fonctionne, quoi.
Bah, c'est une musique extrêmement visuelle qu'on va écouter maintenant. Mais j'encourage d'ailleurs pour toutes celles et ceux qui nous écoutent d'aller écouter votre dernier album sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes de streaming, sur Bandcamp, et peut-être d'acheter la cassette ou le vinyle. Morgane, je vais te laisser t'installer. Du coup, tu vas nous interpréter un morceau qui s'intitule Warm and Soft. Ouais, bien sûr. Bah, si tu veux, tu peux le dire au micro, comme tu l'entends.
Non, je vais jouer Warm and Soft, ce qui est le troisième morceau de l'album. Toute seule guitare-voix, c'est une exclusivité. Je ne l'avais jamais fait avant le week-end dernier.
Allez, première fois sur Campus que vous écoutez le morceau Warm and Soft, interprété par Morgane du groupe My Dog the Bear. On attend qu'un s'installe, sorte la guitare, et c'est quand tu veux.
So warm and soft, give it up.
Merci Morgan, c'était Warm and Soft du groupe My Dog the Bear. Merci tout le monde, merci Vladimir aussi pour ce zoom. Merci Julie d'être venue. Je le rappelle, votre album qui est donc sorti en janvier, c'est ça, qui est donc disponible, je crois, sur presque toutes les plateformes.
Tout sauf Spotify, Amazon et non, c'est tout Spotify, Amazon, je crois.
Facebook, Insta.
Et c'est sorti chez Mascara Rock Records en vinyle et chez Skank Block Records en cassette.
Très bien. Eh ben magnifique. Et ben foncez tout le monde pour aller les écouter et leur donner de la force. On va passer tout de suite à la dernière chronique, à la dernière chronique de Ludmilla.
La matinale de 19h, 93.9 FM.
Bonjour. Alors, le week-end dernier se déroulait la 98e cérémonie des Oscars aux États-Unis. Alors non, je ne vais pas vous parler des grands gagnants ni des discours en larmes, mais plutôt de ce qui s'est dit juste avant sur le tapis rouge. Je suis tombée sur un extrait d'interview de Ethan Hawke, icône d'un des films les plus romantiques d'Hollywood, Before Sunrise. Vous voyez, deux inconnus qui se rencontrent dans un train, descendent ensemble à Vienne, passent une nuit à parler, à se découvrir et ne se reverront peut-être jamais, que c'est romantique. Dans cette interview, on lui demande un conseil sur l'amour. Et il répond: The one who's in love always wins. Celui qui aime gagne toujours. Il explique que du moment que l'on ressent quelque chose, on est vivant. Peu importe si notre cœur sera brisé, on aura appris. Il prend même une métaphore: le soleil ne se soucie pas que l'herbe lui soit reconnaissante, il continue simplement de briller. Sur le moment, j'ai trouvé ça magnifique. L'idée qu'aimer sincèrement, ouvertement, sans retenue, suffirait à faire de nous des gagnants. Grande romantique que je suis, j'étais touchée. Mais après quelques discussions avec des amis, quelque chose a commencé à coincer. Est-ce qu'on est vraiment toujours gagnant quand on aime? Et surtout, est-ce qu'on est gagnante en tant que femme quand on aime des hommes? Parce qu'aimer n'est pas neutre. Les sociologues et les études de genre le rappellent, l'amour est traversé par des normes sociales, des rapports de pouvoir, des attentes genrées. Dans Réinventer l'amour, l'autrice Mona Chollet explique que les femmes sont socialisées à aimer d'une certaine manière, plus précisément à aimer dans le sacrifice. Très jeunes, elles apprennent à désirer une relation, à la préserver, à travailler pour qu'elle fonctionne. Aimer devient un effort constant, parfois même au détriment de leurs propres besoins. Et dans la fiction, combien de films et séries montrent des hommes émotionnellement distants qui finissent par changer grâce à la patience et l'amour d'une femme? L'amour féminin serait un pouvoir réparateur et il suffirait d'être patiente pour enfin récolter les fruits des efforts investis. Bell Hooks, philosophe féministe, va encore plus loin. Elle explique que pour beaucoup d'hommes, ils ont tout simplement pas appris à aimer pleinement, avec vulnérabilité et réciprocité. Ils ont été socialisés à désirer, parfois à dépendre, mais pas à construire un amour juste. Pour elle, l'amour, c'est pas juste un sentiment, c'est une pratique, un engagement qui demande présence, écoute, investissement, des compétences qui s'apprennent. Or, dans les relations hétérosexuelles, ce sont très souvent des femmes qui portent ces compétences. Socialisées dans le care, on leur attribue le rôle de soin. Ce sont elles qui mettent les mots sur des émotions, qui initient les conversations, qui essayent de comprendre. En gros, elles font le travail pour deux. Enfin, il faut aussi rappeler qu'il y a des amours totalement perdants. Des amours toxiques qui ne sont pas amours, mais qui sont violences. Les violences conjugales, psychologiques et physiques sont une réalité. Et des femmes perdent tous les jours leur santé, leur lumière, leur vie. Ces femmes aiment et ont aimé, et pourtant, ça ne leur a pas suffi pour gagner. Alors Ethan Hawke et son amour solaire auraient-ils tout faux? Pas totalement. Il faut surtout comprendre qu'un amour hors des structures sociales n'existe pas. Il faut le questionner pour apprendre à aimer depuis le même endroit, sans asymétrie. Sinon, aimer peut coûter du temps, de l'énergie, même un peu de soi. Pour revenir à Before Sunrise, ce qui fait la force des deux personnages, Jesse et Céline, c'est que leur amour, le temps d'une nuit, est égal. Ils se découvrent sans script, sans rôle imposé, et c'est seulement là qu'ils brillent et qu'ils gagnent ensemble. Alors peut-être que la vraie question n'est pas « est-ce qu'aimer fait de nous des gagnants ?» mais plutôt « dans quelles conditions aimer ne nous fait plus perdre ?»
Merci beaucoup Ludmilla pour cette chronique et cette introspection amoureuse. Il est temps qu'on se quitte, il est 19h58, vous allez bientôt retrouver un quatrième murmure. Donc l'émission qui va commencer juste après à 20h. Merci d'avoir été avec nous pour cette matinale du 23 mars. Merci à tous les bénévoles qui font vivre la matinale, à Hugo, à l'interview, à Vladimir Ozum avec Morgan et Julie qui, je le rappelle, étaient du groupe My Dog the Bear avec leur nouvel album Deep Pride Beaches. Et Hugo au Flash Info aussi. Merci à Nancy, mais en fait à Jeanne qui était à la chronique Actu. Merci à Ludmilla encore une fois. Et à la réalisation, on était avec Joey ce soir. Merci à nos deux coordinatrices, Jeanne et Aude. Et surtout, merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs. Rendez-vous dès demain pour la prochaine matinale. D'ici là, prenez soin de vous, mettez bien votre casque et les deux mains sur le guidon. Et à bientôt sur Radio Campus Paris.
Radio Campus Paris. Il est 20h.
Rendez-vous le mardi 24 mars au Hasard Ludique pour la finale parisienne du tremplin Pulsation. Découvrez en live les 5 finalistes: Anis, Ardor, Esther Benz, Lyon.